amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Viol, la nuit sonne l'heure, les jours s'en vont de demain. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le front de nos bras passent des éternels regards longs et silencieux. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont de demain. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente, et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont de demain. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni des amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la feuille. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont de demain.
Alors qu'on vient d'écouter la voix d'Apollinaire, on peut être surpris par cette sobriété affichée, car pourtant la poésie d'Apollinaire joue avec son lecteur, et notamment par une particularité assez frappante, c'est l'absence de ponctuation. Un poème que j'aime beaucoup et qui joue avec cette absence de ponctuation, c'est L'école chic, poème sur un prêt, sur des vaches, mais aussi sur une femme et sur des fleurs, comme toujours. Je lis donc L'école chic. Le pré est vénéneux mais joli en automne. Les vaches y paissant lentement s'empoisonnent. Le colchic, couleur de cerne et de lilas, y fleurit, tes yeux sont comme cette fleur-là. Violâtre comme leur cerne et comme cet automne, et ma vie pour tes yeux lentement s'empoisonne. Les enfants de l'école viennent avec fracas, vêtus de hoquetons et jouant de l'harmonica. Ils cueillent les colchics, qui sont comme des mères, filles de leurs filles et sont couleur de tes paupières, qui battent comme les fleurs, battent au vent dément. Le gardien du troupeau chante donc tout doucement, tandis que lentes et meuglants les vaches abandonnent pour toujours ce grand pré, mal fleuri par l'automne. Donc on est ici donc face à une femme où il fleurit tes yeux, où les lilas fleurissent tes yeux, ce qui montre bien que le poète joue avec la lecture qu'on peut faire du même poème, et c'est notamment ce qu'on peut voir dans beaucoup de poèmes, et notamment chez Rimbaud. Et donc je passe donc la parole à Héloïse, qui va nous lire Le Dormeur du Val.
Donc avec Le Dormeur du Val, ici Rimbaud joue toujours avec le lecteur, puisque, comme je vais vous le montrer, il faut attendre le dernier vers pour savoir exactement de quoi il retourne. Donc je vais vous en faire la lecture aussitôt. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui. C'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe, sous la nue, pâle dans son lit vert, où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.
À 7 ans, il faisait des romans sur la vie du grand désert, où lui la liberté ravit. Forêt, soleil, rive, savane, il s'aidait de journaux illustrés, où rouge il regardait des Espagnols rire et des Italiennes. Quand venait l'œil brun folle, en robe d'indienne, 8 ans, la fille des ouvriers d'à côté, la petite brutale, et qu'elle avait sauté dans un coin sur son en secouant ses tresses, et qu'il était sous elle. Il lui mordait les fesses, car elle ne portait jamais de pantalon, et par elle meurtrie des poings et des talons, remportait les saveurs de sa peau dans sa chambre. Il craignait les blafards dimanches de décembre, où pommadé sur un guéridon d'acajou, il lisait une Bible à la tranche vert chou, des rêves l'oppressaient chaque nuit.
Donc avec cette chute brutale, ici on a une sorte d'effet d'attente qui est créé jusqu'à le vers final où Rimbaud va jouer avec son lecteur. Et cela nous fait songer dans un tout autre registre à Robert Desnos qui lui aussi joue avec le lecteur, notamment au niveau des sonorités. Et donc je laisse pour cela la parole à Rémi.
Donc un poème de Robert Desnos qui est assez presque illisible finalement à l'oral. On va quand même faire une tentative. Donc Robert Desnos. Notre Père qui est au lieu, que votre nom soit sanctifié, que votre araignée rit, que votre vol honteux soit fait, au fait, sur la terre comme au sillon. Donnez-nous au jour réduite notre pain quotidien. Par, donnez-nous de nos offensés, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nounou, laissez-nous succomber à la tentation et d'elle, ivrez-nous du mal. Robert Desnos qui s'amuse à parodier cette prière est tout aussi ludique, un poème de Raymond Queneau qu'Héloïse va nous lire tout de suite.
Alors je vais vous lire un poème, tout simplement, de Raymond Queneau. Bien placé, bien choisi, quelques mots font une poésie. Les mots, il suffit qu'on les aime pour écrire un poème. On ne sait pas toujours ce qu'on dit lorsque naît la poésie. Faut ensuite rechercher le thème pour intituler le poème. Mais d'autres fois, on pleure, on rit en écrivant la poésie. Ça a toujours quelque chose d'extrême, un poème. Et donc, dans un registre ici un peu plus sérieux, on a Baudelaire, avec son fameux Au lecteur, dont Mathias va nous faire une lecture.
Alors oui, Baudelaire s'adresse à son lecteur à l'ouverture des Fleurs du Mal, et on peut dire qu'en 1856, son lecteur lui a quand même mal rendu, puisqu'il lui a fait un procès. Mais donc on va voir ce que dit Baudelaire à son lecteur, en s'identifiant à celui-ci, en disant que c'est son frère, et donc il l'entre avec lui dans cette quête pour les Fleurs du Mal et dans cette allée du vice. Je lis donc le Au lecteur de Baudelaire. La sottise, l'erreur, le péché, la lésine occupent nos esprits et travaillent nos corps, et nous alimentons nos aimables remords comme les mendiants nourrissent leurs vermines. Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches, et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux, croyant par de vils pleurs laver toutes nos tâches. Sur l'oreiller du mal, c'est Satan trismégiste qui berce longuement notre esprit enchanté, et le riche métal de notre volonté est tout vaporisé par ce savant chimiste. C'est le diable qui tient les fils qui nous remuent. Aux objets répugnants, nous trouvons des appâts. Chaque jour, vers l'enfer, nous descendons d'un pas, sans horreur, à travers des ténèbres qui puent. Ainsi qu'un débauché pauvre qui baise et mange le sein martyrisé d'une antique catin, nous volons au passage un plaisir clandestin que nous pressons bien fort comme une vieille orange. Serré, fourmillant comme un million d'helminthes, dans nos cerveaux ribote un peuple de démons. Et, quand nous respirons, la mort dans nos poumons descend fleuve invisible avec de sourdes plaintes. Si le viol, le poison, le poignard, l'incendie n'ont pas encore brodé de leurs plaisants desseins le canevas banal de nos piteux destins, c'est que notre âme, hélas, n'est pas assez hardie. Mais parmi les chacals, les panthères, les lys, les singes, les scorpions, les vautours, les serpents, les monstres glapissants, hurlant, grognant, rampant dans la ménagerie infâme de nos vices. Il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde, quoiqu'il ne pousse ni grand geste ni grand cri. Il ferait volontiers de la terre un débris et dans un bâillement avalerait le monde. C'est l'ennui. L'œil chargé d'un pleur involontaire, tu rêves d'échafaud en fumant son houkah. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat. Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère.
Que j'aime voir, chère indolente, de ton corps si beau, comme une étoffe vacillante miroiter la peau. Sur ta chevelure profonde, aux âcres parfums, mer odorante et vagabonde, aux flots bleus et bruns, comme un navire qui s'éveille au vent du matin, mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain.
Donc voici Baudelaire qui s'insurge contre l'ennui, mère de tous les vices et qui donc incite son lecteur à faire comme lui, à ouvrir ses fleurs du mal. Maintenant, donc, je voulais rebondir sur une citation de Rimbaud, beaucoup moins sérieuse que celle de Baudelaire, car Rimbaud, qui a écrit Une saison en enfer et qui l'a fait lire à sa mère, répondait à celle-ci qu'il n'avait pas compris un seul mot d'une saison en enfer. Il lui écrit « J'ai voulu dire cela, littéralement et dans tous les sens ». Et on peut peut-être se demander si c'est pas ça, lire de la poésie, à la fois lire littéralement, lire dans tous les sens et peut-être aussi par tous les sens. À savoir, donc, il ne s'agit pas seulement de lire et de dire à voix haute, mais aussi de ressentir par tous les sens. Et pour cela, rien de mieux que Rimbaud pour illustrer Rimbaud, et je laisse donc la parole à Rémi qui va nous lire Voyelles.
Les yeux en des oreilles lisent aujourd'hui les poèmes les plus célèbres de Rimbaud. Je lis donc Voyelles. A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, Voyelles, je dirai quelques jours vos naissances latentes. A, noir corset velu des mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruelles, golfes d'ombre. E, candeur des vapeurs et des tentes, lance des glaciers fiers, roi blanc, frisson d'ombelle. I, pourpre, sans cracher, rire des lèvres belles dans la colère ou les ivresses pénitentes. U, cycle, vibrement divin des mers virides, paix des pâtis semées d'animaux, paix des rides, que l'alchimie imprime au grand front studieux. Ô, suprême clairon plein des strideurs étranges, silence traversé des mondes et des anges, ô l'oméga, rayon violet de ses yeux. Plus théorique désormais, l'art poétique de Verlaine, qui connaissait bien Rimbaud comme on le sait, dont Héloïse va nous lire un extrait.
Une lecture un peu plus classique et surtout très célèbre de Verlaine avec son art poétique. De la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose. Il faut aussi que tu n'ailles point choisir tes mots sans quelque méprise, rien de plus cher que la chanson grise où l'indécis au précis se joint. De la musique encore et toujours, que ton vers soit la chose envolée, qu'on sent qui fuit d'une âme en allée, vers d'autres cieux à d'autres amours. Que ton vers soit la bonne aventure, éparse au vent crispé du matin, qui va fleurant la menthe et le thym. Donc ici, en effet, on a un poème qui est davantage sur la création que sur la réception du poème. Donc ici, de la poésie, hein. On a affaire à toute la musicalité du poème. Et justement, cela nous fait songer à un autre poème d'un tout autre genre, donc celui de Francis Ponge, L'huître, dans le parti pris des choses, dont Mathias va nous faire une lecture.
Oui, parce que, comme l'a dit Héloïse, Verlaine fait de la musique avec de la poésie, mais Ponge, lui, choisit d'aller du côté des objets du quotidien, des objets peu ragoûtants, et notamment l'huître, poème qui a été lu comme une allégorie de la poésie, en montrant qu'il est parfois difficile d'accéder à cette lecture et de lire de la poésie. L'huître, de la grosseur d'un galet moyen, est d'une apparence plus rugueuse, d'une couleur moins unie, brillamment blanchâtre. C'est un monde opiniâtrement clos. Pourtant, on peut l'ouvrir. Il faut alors la tenir au creux d'un torchon, se servir d'un couteau ébréché et peu franc, s'y reprendre à plusieurs fois. Les doigts curieux s'y coupent, s'y cassent les ongles. C'est un travail grossier. Les coups qu'on lui porte marquent son enveloppe de rond blanc, d'une sorte de halo. À l'intérieur, l'on trouve tout un monde à boire et à manger. Sous un firmament, à proprement parler, de nacre, les cieux d'en dessus s'affaissent sur les cieux d'en dessous, pour ne plus former qu'une mare, qu'un sachet visqueux et verdâtre qui flue et reflue à l'odeur et à la vue, frangé d'une dentelle noirâtre sur les bords. Parfois, très rare, une formule perle à leur gosier de nacre, où l'on trouve aussitôt à s'orner.
Les heures.
voici donc un poème qui fait la part belle à l'huître et qui compare l'huître à la poésie. C'est vrai que quand on voit quelqu'un essayer d'ouvrir une huître, on peut se demander si la poésie n'est pas parfois comme ça, une entreprise un peu titanesque, mais qui recèle parfois de très bonnes surprises. Et donc, après ce détour prosaïque, cher à Ponge, on va retourner vers une tonalité plus classique accordée à la poésie, en lien à l'amour, avec deux amoureux qui lisent de la poésie sous la plume de Zweig, car aussi la prose peut intégrer la poésie, et c'est ce que va nous lire Rémi.
Voilà, ces deux personnages dans une histoire d'amour qui n'a absolument rien d'idyllique pour le coup. Cette perle finalement à la Ponge qui ressurgit avec ces espèces de lueurs qui évoquent le passé des personnages. Perle qui est ici chargée d'une grande tristesse et d'une forme de tragique. Mais qu'était-ce donc ? Il se concentra. Que cherchaient à lui dire ces ombres qui cheminaient dans ce bois qui s'endormait ? Ce devait être des paroles, une situation, une expérience vécue, entendue, ressentie, comme enveloppée dans une mélodie, quelque chose enfoui tout au fond de lui, qu'il n'avait pas perçu depuis des années. Et cela éclata soudain, éclair déchirant l'obscurité du souvenir. C'était bien des paroles, un poème qu'un soir elle lui avait lu dans sa chambre. Un poème français, il en connaissait chaque mot, et comme apporté par un vent brûlant, ils étaient là tout d'un coup sur ses lèvres. Il entendit, à une décennie de distance, prononcer par sa voix à elle ces vers oubliés d'un poème étranger. Dans le vieux parc solitaire et glacé, deux spectres cherchent le passé. Et à peine ces vers eurent-ils fusé dans sa mémoire que toute la scène lui revint comme par magie, la lampe répandant sa lumière dorée dans le salon obscur, où un soir elle lui avait lu ce poème de Verlaine. En la voyant, obscurcie par l'ombre de la lampe, assise comme autrefois, proche et lointaine à la fois, aimée et inaccessible, il sentit tout d'un coup son cœur s'emballer, enthousiasmé d'entendre sa voix se moduler sur la vague sonore du vers, de l'entendre prononcer, même si ce n'était que dans le poème, les mots « nostalgie » et « amour ». Mots d'une langue étrangère, certes, et destinés à des étrangers, mais néanmoins grisants prononcés par cette voix, sa voix. Comment avait-il pu oublier cela pendant des années, ce poème, cette soirée où, seul dans la maison et troublé par cette solitude, ils avaient fui les périls de la conversation pour le terrain plus rassurant des livres, où, derrière les mots et la mélodie, avait parfois clairement brillé, comme une lueur dans les buissons, l'aveu d'un sentiment plus intime, étincelles insaisissables qui, bien qu'évanescentes, les rendaient heureux. Comment avait-il pu oublier cela si longtemps ? Mais aussi, comment était-il soudain revenu, ce poème perdu ? Sans réfléchir, il se traduisit ses vers, et à peine se les était-il dit, qu'il les comprenait déjà et qu'il en détenait la clé lourde et scintillante, l'association palpable du fond d'un puits d'eau dormante, ce souvenir précisément celui-ci. Ces ombres, elles étaient là, sur ce chemin, les ombres qui avaient touché, réveillé les mots par elles prononcés, oui, mais bien plus encore. Et dans un frisson, il perçut soudain, effrayé, le sens de cette révélation. Ces paroles étaient prémonitoires. N'étaient-ils pas eux-mêmes ces ombres qui cherchaient leur passé et adressaient de sourdes questions à un autrefois qui n'existait plus ? Des ombres qui voulaient devenir vivantes et n'y parvenaient plus, car ni elle ni lui n'étaient plus les mêmes et ils se cherchaient pourtant en vain, se fuyant et s'immobilisant, effort sans consistance et sans vigueur, comme ces noirs fantômes devant eux. Il dut sursauter sans s'en rendre compte, car elle se retourna. « Qu'as-tu, Louis ? À quoi penses-tu ? » Mais il éluda « rien, rien ». Et il se contenta de plonger plus profondément lui-même dans cette autre foi. Cette voix, la voix prémonitoire du souvenir, ne voulait-elle pas une fois encore lui parler et, grâce au passé, lui révéler le présent ?
Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé, et cela sans savoir. Nous regarde passer, répétant après moi ces mots que j'ai tressés et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amour heureux.
L'excipit, en fait, du roman Le voyage dans le passé, de Stefan Zweig, où ce poème surgit du passé en portant toute la profondeur de cette évocation du souvenir. Et on revient sur quelque chose de beaucoup plus théorique, quelque part, avec un poème de Paul Valéry que Mathias va nous lire.
Oui, parce que Valéry est, est connu pour avoir écrit de la poésie, mais il a aussi surtout réfléchi sur celle-ci, et réfléchi non seulement sur la création, mais aussi sur la réception, et notamment dans un poème en prose qui peut apparaître aussi à la limite du texte théorique, qui s'appelle « L'amateur de poèmes ». Ce qui montre aussi que dans « amateur », il y a aussi une forme d'amour, et celui qui aime le poème le lit peut-être différemment. Si je regarde tout à coup ma véritable pensée, je ne me console pas de devoir subir cette parole intérieure sans personne et sans origine, ces figures éphémères, et cette infinité d'entreprises interrompues par leur propre facilité, qui se transforment l'une dans l'autre, sans que rien ne change avec elles. Incohérente sans le paraître, nulle instantanément comme elle est spontanée, la pensée par sa nature manque de style. Mais je n'ai pas tous les jours la puissance de proposer à mon attention quelque être nécessaire, ni de feindre les obstacles spirituels qui formeraient une apparence de commencement, de plénitude et de fin, au lieu de mon insupportable fuite. Un poème est une durée, pendant laquelle, lecteur, je respire une loi qui fut préparée. Je donne mon souffle et les machines de ma voix, ou seulement leur pouvoir qui se concilie avec le silence. Je m'abandonne à l'adorable allure, lire, vivre où mènent les mots. Leur apparition est écrite, leur sonorité concertée, leur ébranlement se compose d'après une méditation antérieure, et ils se précipiteront en groupes magnifiques ou purs dans la résonance. Même mes étonnements sont assurés, ils sont cachés d'avance et font partie du nombre. Mû par l'écriture fatale, et si le maître toujours futur enchaîne sans retour ma mémoire, je ressens chaque parole dans toute sa force, pour l'avoir indéfiniment attendu. Cette mesure qui me transporte et que je colore, me garde du vrai et du faux. Ni le doute ne me divise, ni la raison ne me travaille. Nul hasard, mais une chance extraordinaire se fortifie. Je trouve sans effort le langage de ce bonheur, et je pense par artifice une pensée toute certaine, merveilleusement prévoyante. Aux lacunes calculées, sans ténèbres involontaires, dont le mouvement me commande et la quantité me comble. Une pensée singulièrement achevée. » Donc on voit bien que Valérie considère que lire de la poésie, c'est comble, au sens positif du terme, et que cette lecture nous achève, nous complète, et cela dans la durée. Et c'est justement pourquoi on a choisi aussi d'ajouter un texte de Bachelard, qui lui est plus proprement parlé un texte théorique d'un philosophe sur la poésie et qui met en scène cette durée de la poésie et du plaisir qu'on en retient.
Alors en effet, comme l'a dit Mathias, on va rester dans la théorie avec Bachelard, donc un extrait de L'air et les songes, où celui-ci va notamment reprendre l'intitulé d'un célèbre poème de Baudelaire, donc l'invitation au voyage. Un vrai poète ne se satisfait pas de cette imagination évasive. Il veut que l'imagination soit un voyage. Chaque poète nous doit donc son invitation au voyage. Par cette invitation, nous recevons, en notre être intime, une douce poussée, la poussée qui nous ébranle, qui met en marche la rêverie salutaire. La rêverie vraiment dynamique. Si l'image initiale est bien choisie, elle se révèle comme une impulsion à un rêve poétique bien défini, à une vie imaginaire qui aura de véritables lois d'images successives, un véritable sens vital. Les images mises en série par l'invitation au voyage prendront dans leur ordre bien choisi une vivacité spéciale qui nous permettra de désigner un mouvement de l'imagination. Ce mouvement ne sera pas une simple métaphore. Nous l'éprouverons effectivement en nous-mêmes, le plus souvent comme un allègement, comme une aisance à imaginer des images annexes, comme une ardeur à poursuivre le rêve enchanteur. Un beau poème est un opium ou un alcool. Et donc sur cet extrait-là, que nous allons débattre, conclure et réfléchir ensemble sur ce que signifie lire de la poésie.
Alors, on a ouvert l'émission avec la voix d'Apollinaire et on l'a conclu avec la voix d'Héloïse lisant Bachelard, où Bachelard disait que le poème, en tout cas le bon poème, est un opium ou un alcool. Et donc, par rapport aux alcools d'Apollinaire, ce que je trouve intéressant, c'est de lire de la poésie dans le sens où celle-ci peut nous enivrer, où aussi elle a un temps de décantation aussi, comme tout alcool, et qu'elle décante en nous et qu'elle nous enivre aussi. Donc à la fois, c'est deux mouvements que je trouve intéressants.
Oui, décantation qu'on a aussi quelque part chez Zweig avec ce poème qui, justement, qui se sédimente dans la mémoire des personnages et qui ressurgit comme ça à l'occasion d'un affleurement, pour poursuivre la métaphore géologique, alors qu'on ne l'attendait plus, et qui est porteur d'une très très grande densité, d'une forme de profondeur, et qui finalement, la poésie reste... La poésie permet de transcrire quelque chose d'assez essentiel, de profond. Et c'est peut-être aussi en lien avec ce que dit Bachelard.
Oui, c'est intéressant parce que du coup, les textes qu'on a lus, qui étaient plus théoriques, parlaient du travail de la poésie, il y a tout ce travail en amont. Je pense au texte de Verlaine qu'on a lu, c'est toute une composition musicale, donc c'est vraiment un travail de forçat parfois. Même le poème de Ponge, parce que du coup, l'huître, c'est un gras, c'est quelque chose à quel on s'attelle. Et en même temps, la lecture et ce qu'on en retient, c'est quelque chose de très fragile et qui dure qu'un instant, qui reste dans la résonance du mot. Ce qu'on a par exemple dans voyelles, c'est juste des voyelles qui sont lancées avec des couleurs, et on attrape ce qu'on a envie, ce qu'on aime dans ce poème-là.
Oui, chez Desnos aussi, du coup, on imagine qu'il a quand même dû, enfin Desnos ou Queneau que tu as lu, on imagine qu'ils ont quand même dû souffrir un petit peu pour écrire ça. Et finalement, ça reste quelque chose de très fragile par le fait même que c'est quasiment illisible dans la mesure où c'est impossible de rendre compte de tout ce qu'il y a dans la forme par la lecture.
Après, il y a quelque chose qui est quand même, je trouve, de plus spontané dans la lecture qu'on peut faire d'un texte de Queneau que d'un texte beaucoup plus travaillé de Verlaine ou de Rimbaud. Je ne sais pas si vous le ressentez de la même manière que moi.
Non, parce que du coup, on a l'impression que Queneau écrit d'un jet, en fait. Mais en même temps, il travaille aussi des formes poétiques qui sont très, très brèves et qui, en même temps, jouent quand même sur une musicalité très prononcée. Enfin, sur le faire rimer choisi, poésie. Et ça a toujours quelque chose d'extrême, un poème. Et voilà, le retour un peu de sonorité qui renvoie peut-être à l'enfance, parce que du coup, dans les comptines qu'on a appris, et c'est vrai que c'est radicalement différent d'un poème comme Ponge, qui déjà est un poème en prose, et qui du coup a un travail stylistique très, très poussé, et qui du coup, parfois, on bute, et je trouve que c'est quand même assez intéressant d'avoir un poème qui parle d'une huître qu'on n'arrive pas à ouvrir, et un poème quand même qui joue là-dessus, quand on le lit à voix haute. Parfois, c'est quand même assez ardu.
Malgré tout ce qu'on coupe au montage.
Voilà, c'est ça. Et pourtant, je trouve que c'est ce qui est différent de lire un poème à voix haute, et d'autant plus parce qu'on est à la radio, que de le lire chez soi, dans son lit, en silence. Je pense que la poésie doit être dite à voix haute, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on lit plus de poésie en silence.
C'est pas du tout la même lecture qu'on en fait après, parce que forcément, la pensée a une fluidité, une capacité à s'insérer dans n'importe quelle forme que peut pas avoir la voix. Et c'est là aussi l'intérêt de la lecture, je suppose, de se forcer à respecter les contraintes que nous impose la voix.
Oui, puis une appropriation qui n'est pas non plus la même. Je pense que lorsqu'on a entendu Apollinaire nous lire le pont Mirabeau, c'était peut-être pas la façon dont on se l'imaginait silencieusement.
Oui, parce que Apollinaire, quand on lit Alcool, on s'imagine que c'est quelqu'un de très rigolo qui va jouer sur les mots. Et en fait, non, quand il lit, c'est quelque chose de très sobre, en plus avec sa voix très nasillarde. Et
Pont-Marie Mirabeau, c'est pas ce qu'il y a de plus joyeux comme poème, quand même.
Oui, mais non, parce que aussi, il a enregistré un poème qui s'appelle Marie et qui là est plutôt une comptine. Et il le lit aussi de la même façon, d'une façon très sobre et très directe. Donc c'est quand même assez intéressant.
Après, il y avait déjà l'absence de ponctuation qui dénotait, qui laissait déjà apparaître cette idée, je trouvais, de sobriété, de refus d'exclamation ou de...
Oui, parce que oui, on n'en a pas lu, mais il y a plein de poètes qui ont théorisé le fait que la poésie était impossible et que, de toute façon, il fallait juste mettre quelques mots sur la page et gagner le blanc de la page, gagner la poésie. Que du coup, il y a pas mal de poètes qui sont hantés par cette idée du silence et de ne pas arriver à dire. Et du coup, je trouve ça assez beau de dire à voix haute et de déclamer des poèmes pour combler le vide ambiant.
Mais cette espèce de tension entre le dire et le simplement parler, et aussi dans le poème de Baudelaire, où il y a vraiment cette tentative d'établir un contact et de transmettre un sens dans ces fleurs qui, certes, sont belles, mais ne sont pas seulement belles par leur forme.
En parlant de ces poètes qui ont fait beaucoup avec peu de mots, Lisons maintenant un poème d'Éluard qui fait de la poésie une tension vers l'inconnu et l'infini. Et je laisse la parole à Rémi qui va nous lire « Travail du poète » d'Éluard.
La route est courte, on arrive bien vite aux pierres de couleur, puis à la pierre vide. On arrive bien vite aux mots égaux, aux mots sans poids, puis aux mots sans suite. Parler sans avoir rien à dire, on a dépassé l'aube et ce n'est pas le jour, et ce n'est pas la nuit, rien. C'est l'écho d'un pas sans fin.
C'était Les yeux en des oreilles avec Héloïse, Rémi et Mathias, et nous remercions chaleureusement Léo pour la régie.